Et sur la Bretagne, avec des températures en forte hausse demain matin sur le quart nord-est du pays. 3 degrés à Nancy, 4 à Dijon et dans l'après-midi, on attend 17 degrés de maximum à Perpignan, 11 à Quimper, 9 à Paris.
Patricia Charbonnier pour les prévisions météo. Merci de passer la soirée avec nous sur France Info. Il est 23h. Et à 23h, les toutes dernières infos, c'est avec vous Stéphane Milhomme.
Ce soir sur France 2 et demain matin sur France Inter, c'est en homme libre que Boualem Sansal s'exprime. L'écrivain franco-algérien gracié il y a maintenant une dizaine de jours pense que sa détention est liée aux positions de la France sur le Sahara occidental, mais il se dit depuis toujours pour la réconciliation entre la France et l'Algérie. Boualem Sansal, invité ce soir également de France Inter, revient sur ses conditions de détention.
La prison, on peut s'y habituer. Hein. Il ne faut pas croire que c'est si terrible que ça.
Ah bon ?
Oui, on s'habitue. On a des amis, on a sa petite routine, la cellule, la cour, l'infirmerie. Parce qu'on est dans une prison, on est obligé de garder sa souffrance pour soi. Ouais. Les prisonniers ne communiquent pas sur ça. Ouais. C'est silence. On pleure dans sa cellule le soir, tout seul, dans sa tête. Intérieurement, on se ferme. On peut être très volubile. Bon, je suis volontiers avec les gardiens, je blague et tout ça, venez voir faire du sport, un truc, machin. Mais intérieurement, on se ferme. Être prisonnier, c'est une humiliation. On vous fout du matin et du soir. Vous êtes comme un toutou. Viens ici, assieds-toi là-bas, va là-bas, truc. Mange, assieds-toi. C'est terrible. On est un chiot, quoi.
Voilà, Boualem Sansal qui sera demain à 8h20, l'invité de nos confrères de France Inter, interrogé par Benjamin Duhamel et Florence Paracuelos. Et ce soir encore, à Genève, Américains et Ukrainiens discutent du plan Trump en 28 points pour mettre fin à la guerre face à la Russie. Et c'est le chef de la diplomatie américaine qui l'assure. Marco Rubio se dit optimiste sur la possibilité de conclure un accord très vite. Donald Trump donnait ces derniers jours aux Ukrainiens jusqu'à jeudi 27 novembre, autant dire cette semaine qui arrive. Mais les Européens veulent aussi peser et amender ce texte. Ils ont d'ailleurs envoyé eux aussi leurs émissaires en Suisse. Les suites de la découverte du corps calciné d'une femme mercredi dernier en Isère. C'était sur la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil. Son compagnon est mis en examen pour homicide sur conjoint. Cet homme de 39 ans a fait des aveux à minima selon le parquet de Grenoble, invoquant les conséquences d'une dispute. On en a parlé toute cette journée. Après 6 mois de travaux, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant a réuni depuis le mois de juin 130 citoyens tirés au sort. Des citoyens qui font maintenant leur proposition. Une semaine de 5 jours avec cours le mercredi pour les écoliers. Un début de journée retardé à 9h pour les collégiens et les lycéens. Mais il est aussi question de faire des enseignements théoriques le matin et pratique l'après-midi. Il y a donc le bricolage, les arts, mais un oublié pour certains, le sport. C'est Coralie Bénèche qui l'estime. Elle est secrétaire générale du syndicat SNEP FSU.
On passe après le bricolage. L'EPS, donc l'éducation physique et sportive, qui est obligatoire, je le rappelle, dans les programmes de la maternelle jusqu'à la terminale, eh bien aujourd'hui passe après des savoirs. On ne dit pas que ce n'est pas important à un moment donné de s'interroger, je dis bien de s'interroger si ça doit avoir lieu à l'école, mais il n'empêche qu'on passe après le bricolage. On s'interroge énormément, y compris aujourd'hui, où on sait que la question de l'augmentation du temps de pratique physique est un enjeu essentiel lorsque l'on voit toutes les études faites sur l'état de santé de nos enfants. En EPS et au SNEP, on milite pour qu'il y ait 4 heures d'éducation physique et sportive pour toutes et tous, parce que l'EPS, c'est le seul lieu obligatoire de pratique physique. Et en fait, plus on diminue le temps scolaire, plus on augmente les inégalités.
Voilà, Coralie Bénèche, co-secrétaire générale du syndicat SNEP FSU et professeure d'éducation physique et sportive dans l'Académie de Paris. Dans l'actualité aussi, le vote du budget et celui de la sécurité sociale. Les sénateurs rejettent la création d'un réseau France Santé voulu par Sébastien Lecornu pour améliorer l'accès aux soins. Mais de nombreux sénateurs dénonçaient ces dernières heures une coquille vide, un rejet dans le cadre de l'examen de ce budget de la Sécu. Le chef de l'armée soudanaise affirme ce soir que le groupe de pays médiateurs cherchant à mettre fin à la guerre entre l'armée et les paramilitaires était partial tant que les Émirats arabes resteraient membres. Pour l'instant, les combats se poursuivent et il y a beaucoup de réfugiés désormais dans le secteur du Darfour. Et une semaine après le passage du numéro 2 des Nations Unies, l'aide humanitaire sur place reste très précaire alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes. La gestion humanitaire de cette guerre est une faillite. Elle repose sur quelques organisations non gouvernementales, Étienne Monin, et parmi lesquelles plusieurs françaises.
C'est un hasard, mais Jérôme Bertrand est arrivé dans le camp de Taouila quelques jours après la prise de la ville d'El Facher par les paramilitaires. Il travaille pour Handicap International. Il a découvert le camp de réfugiés au plus fort de la crise.
Vous avez une population comme celle de la ville de Lyon, en fait, qui vivent sous des bâches, dans des abris en paille. Et qui ont plus rien pour survivre.
Sur place, les ONG n'ont pas de stock. Les camions peuvent mettre 2 mois avant d'arriver à cause des contraintes administratives et sécuritaires.
Les routes principales d'accès au camp de Taouila ne sont plus utilisables. Tous les camions qui apportent de l'aide sont obligés de traverser une zone qui s'appelle le Djebel Mara, qui est une zone montagneuse, volcanique, et doivent passer par des pistes, mais des pistes qui sont improvisées.
Le camp est donc tenu à bout de bras par une quinzaine d'ONG internationales, mais elles n'arrivent pas à répondre aux besoins, regrette Jérôme Bertrand.
Quand vous avez des nouveaux arrivants, vous devez décider à qui vous allez donner de quoi survivre, parce qu'il ne s'agit que de ça, donner de l'eau pour boire, donner à manger pour survivre. Donc c'est ces choix-là, ces dilemmes inhumains auxquels on fait face.
Et cette situation au Darfour illustre l'effondrement de l'humanitaire institutionnel avec le retrait des financements américains et la perte d'influence de l'ONU.
Explication signée Étienne Monin sur France Info. Le sport et le football, Lille s'impose 4-2 ce soir face au Paris FC. C'était pour achever la 13e journée de Ligue 1, les Lillois du LOSC, désormais 4e, et donc au pied du podium de ce classement. Le top 14 de rugby et le Stade français l'emporte face à Toulon, 51-24, pour refermer cette fois la 10e journée du championnat. La neige est tombée ces derniers jours un petit peu partout en France. On a vu qu'il y a eu quelques contraintes sur la route. Météo France a levé à la mi-journée sa vigilance orange sur bon nombre de départements. Mais la neige en ce mois de novembre, c'est aussi une bonne nouvelle pour les massifs montagneux. Et c'est le cas en Isère, dans le massif du Vercors et dans le massif de la Chartreuse. Direction le col de Porte à Sarcenat, Antoine Ballandra, où vous avez rencontré les premiers skieurs heureux.
C'est un bruit qui fait plaisir. Le bruit des pas qui s'enfoncent dans la neige. Un appel entendu par Maud, venue de Grenoble.
On est content de voir de la neige. Mais les enfants, il faut les rééquiper. Mais une fois qu'on est là, ils sont contents.
Maud est accompagnée de sa fille.
Léonie, 6 ans.
Bien trop occupée à monter dans sa luge violette.
Allez, tu freines d'abord. Tu freines.
Juste à côté, Pierre et son collègue Younes chaussent les skis de fond.
Et ouais, ça y est, première fois de l'année. On est de Paris.
Vous êtes venu exprès ?
Non, on est venu pour travailler. On a un chantier sur Grenoble toute la semaine. Faudra pas le dire à mon patron.
Ah ouais, vous êtes descendu un peu plus tôt, quoi.
C'est ça, exactement, pour profiter.
Younes n'est pas hyper, hyper rassuré.
Première fois ce qu'ils font. On va tester tout ça.
Donc c'est le collègue qui vous a traîné là ?
C'est ça. Et lui s'y connaît très bien, du coup, je fais confiance.
Je vous donne les bâtons.
Merci beaucoup.
Vous avez 2-3 petits conseils à me donner ?
Ne tombez pas.
Ok.
Parallèle. Et c'est parti ! Ah non, me pousse pas !
Voilà, dans la neige fraîche et dans le paysage de carte postale du col de Porte à 1326 mètres d'altitude, l'histoire retiendra que Younes a parcouru 20 mètres avant de tomber.
C'était prévu, c'était annoncé. Hein.
Voilà, Antoine Ballandra, ici Isère, Aix-France Bleu. Sachez que d'autres stations vont ouvrir le week-end prochain dans le désordre. Isola 2000, Tignes, Montgenèvre ou encore les Deux Alpes, et là toujours en Isère.
Stéphane Milhomme sur France Info, merci et à tout à l'heure, 23h09.
France Info, 6h-9h.
Bonjour, c'est Jérôme Chapuis. Je vous retrouve tous les matins dès 6h avec toutes les équipes de France Info, nos chroniqueurs, l'édito politique, le décryptage éco, France Info Monde, nos invités, les enquêtes et reportages de la rédaction, toute l'actu qui vous concerne pour rester informé en toute confiance.
6h-9h, du lundi au jeudi, c'est Jérôme Chapuis sur France Info.
Thank you.
23h09, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur France Info. Dans la prochaine demi-heure, comment les Beatles ont contribué à façonner la musique populaire en France. On va voir ça avec Bertrand Dical dans ses chansons qui font l'actu. Dans l'immédiat, on va parler de cette permission de sortir accordée à un détenu et qui met hors d'eux les syndicats pénitentiaires.
France Info, 20h minuit. Marc Potvin.
Le ministre de la Justice réagit aussi. Gérald Darmanin souhaite une refonte des règles d'application des peines en matière de criminalité organisée. Le point de départ de la polémique, c'est donc cette permission de sortir accordée à un détenu de la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, considéré suffisamment dangereux pour être parmi l'un des 100 premiers narcotrafiquants incarcérés dans le quartier ultra sécurisé. Il va pouvoir quitter sa cellule toute la journée demain pour se rendre chez un possible futur employeur, ce qui scandalise Emmanuel Baudin, secrétaire général de Force ouvrière pénitentiaire, syndicat des surveillants de prison.
Elle nous choque, elle choque, je pense, l'opinion publique. Elle est surtout incompréhensible. Et elle met à mal un nouveau régime qu'on vient de créer, qui est les quartiers de haute sécurité, où l'idée était de mettre des gens sous cloche pour éviter qu'ils aient un contact avec l'extérieur. Il fait partie des 100 détenus les plus dangereux. Et là, on va le laisser sortir pendant près de 14 heures à l'extérieur, alors que d'habitude, dans l'établissement, il est isolé, il a des parloirs hygiophones, il a aucun contact avec l'extérieur. Et là, on le laisse sortir toute une journée. C'est tout simplement inacceptable.
On précise que ce n'est pas une libération, c'est une permission de sortie de quelques heures, 14 heures vous nous dites, donc du matin au soir, pour rencontrer un futur employeur. On imagine quand même qu'il a dû fournir un certain nombre de preuves, de garanties pour bénéficier de cette permission.
En tous les cas, ce qu'il a fourni n'a pas suffi pour qu'il ait un accord de la commission qui s'est tenue ou qui réunit l'ensemble des partenaires de l'administration pénitentiaire, des surveillants, des conseillers d'insertion et de probation, psychologues, directeurs. Même le procureur a fait appel de cette décision. Donc je pense qu'à part le juge d'application des peines, personne ne croyait à la nécessité que ce détenu sorte. Enfin, sinon, il n'a rien à faire en quartier de haute sécurité. Rappelons que ce détenu s'est évadé avec un commando en 2014. Rappelons aussi qu'il est libérable en 2029 et que je crois savoir que, au vu des trafics qu'il entretient, il n'a pas vraiment besoin de trouver du travail. Financièrement, visiblement, tout va bien pour lui.
Alors écoutez justement Emmanuel Baudin, si vous le voulez bien, la réaction de Flavie Roux. Elle est secrétaire générale du SNDP-CFDT. Elle représente les directeurs de prison. Et elle, cette permission de sortie ne la choque pas. Elle emploie notamment deux arguments. Écoutez.
Il faut admettre que parmi l'ensemble des détenus qui composent cet établissement, on a des détenus qui ont une dangerosité très très variable. Tout le monde n'est pas l'ennemi public numéro un. On est sur des détenus qui ont été évalués à un moment comme parmi les plus dangereux. Au sein de ces détenus, il y a déjà des degrés de dangerosité différents. Et puis, il y a des détenus qui sont encore prévenus. Certains ont des peines extrêmement longues, d'autres beaucoup moins. D'autres ont déjà un parcours de détention derrière eux, qui est parfois positif. Et il peut arriver qu'il y ait des divergences de point de vue sur ces détenus-là. Mais je dois aussi rappeler quand même le délai dans lequel le casting de ces détenus a été réalisé. Je pense qu'on ne peut pas non plus exclure que certains détenus, peut-être avec le temps, on considéra qu'ils étaient peut-être insuffisamment dangereux pour
c'est une erreur, il n'est pas assez dangereux pour figurer dans ce quartier de haute sécurité, ça peut être une possibilité.
Alors ça fait partie des choses qui sont possibles et surtout peut-être que les informations sur ce détenu qui était disponible au moment du choix de son affectation ont évolué depuis. La connaissance qu'on a des détenus, de leur profil, elle évolue avec le temps. Elle évolue notamment lorsque des condamnations arrivent et sont posées. Elles permettent de réévaluer ce qu'on reproche aux détenus alors qu'avant on suspectait des choses sans certitude. Un ensemble de faits qui surviennent au fur et à mesure de la peine nous permettent de réajuster l'évaluation que l'on fait. Ça s'appelle l'individualisation de la peine. Et je tiens à rappeler que c'est un principe constitutionnel et qu'on a quand même fortement tendance à l'oublier. On est un petit peu aidé pour l'oublier par notre garde des Sceaux et aussi par un certain nombre de personnes qui s'expriment volontiers en ce moment dans les médias.
Flavie Roux, secrétaire générale du syndicat de directeurs de prison SNDP-CFDT, Emmanuel Baudin, est-ce qu'il y a eu des erreurs de casting? Est-ce que certains de ces 100 narcotrafiquants emprisonnés à Vendin-le-Vieil ne devraient pas en fait se trouver dans cette prison de haute sécurité et ne sont peut-être pas aussi dangereux qu'on le dit?
Non, je ne crois pas du tout. Je pense que cette représentante des directeurs de prison se trompe. D'ailleurs, c'est les magistrats qui décident ou non de placer ces gens dans ces quartiers. C'est pas le ministre, c'est pas l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire a présenté une liste avec le ministre et les magistrats ont accepté ou pas. Donc le magistrat qui a accepté doit suffisamment connaître le dossier de ce détenu pour savoir qu'il avait toute sa place dans ce quartier. Sinon, croyez-moi, on en aurait mis un autre. Enfin, ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de moyens que de gérer ces détenus à Vendin-le-Vieil, maintenant qu'on est sur Sarthe. On a autre chose à faire que de mettre des détenus qui n'auraient pas le profil dans ce type d'établissement. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec cette représentante.
Gérald Darmanin vient justement de réagir, le ministre de la Justice, sur le réseau X, qui dit tout d'abord qu'il ne commente pas cette décision individuelle d'un juge, mais il dit ensuite vouloir moderniser et consolider les règles encadrant l'exécution des peines pour les criminels les plus dangereux. Est-ce que vous partagez ce souhait de la part du ministre ?
Oui, alors nous, on va plus loin, nous, puisqu'on demande la suppression des juges d'application des peines. Nous, on demande à ce que ce soit l'administration pénitentiaire qui soit à la manœuvre. C'est-à-dire, comme en Espagne, c'est l'administration pénitentiaire qui décide des aménagements de peine et qui donne un avis et qui gère les aménagements, les conditions de détention. C'est nous qui donnons des comptes rendus aux magistrats pour prendre les décisions. Alors là, en l'occurrence, on avait donné un avis défavorable, mais le magistrat a passé outre. Donc, je pense qu'il faut nous donner à nous qui travaillons tous les jours avec les détenus, qui les connaissons le mieux, la main sur ces aménagements de peine. On demande aussi la création d'un nouveau régime de détention qui est l'incarcération à domicile. Enfin, aujourd'hui, les magistrats gèrent les entrées en prison et gèrent les sorties. Le résultat, c'est 25 000 matelas, c'est 25 000 détenus de trop, c'est 6 000 matelas au sol, c'est 11 000 bracelets électroniques qui sont dans les tiroirs. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc, donnons la main à l'administration pénitentiaire, aux professionnels qui connaissent le mieux les détenus et qui sauront décider de qui doit purger quoi comme peine et si des aménagements de peine doivent être prononcés.
Emmanuel Baudin, ça ressemble à quoi une permission de sortie ? Est-ce qu'elle est encadrée ou est-ce que le détenu a la totale latitude et liberté de ses faits et gestes durant le temps de cette permission ?
Alors ça dépend. Elle peut être accompagnée de personnel pénitentiaire, d'insertion de probation ou de surveillant ou libre.
Est-ce que vous savez si ce sera le cas demain ?
Visiblement, elle sera libre et tant mieux. Parce que j'ai pas envie qu'un personnel pénitentiaire en accompagnance détenu fasse l'objet d'attaques, parce qu'on sait jamais. Maintenant, toute la France sait que ce détenu va sortir. Et je pense qu'il a pas que des amis à l'extérieur. Donc, si jamais quelqu'un voulait régler ses comptes, et je voudrais pas voir un personnel de l'administration pénitentiaire risquer sa vie en accompagnance détenu chez le patron.
Encore un mot, Emmanuel Baudin. Est-ce que ça n'est pas normal aussi que des détenus puissent préparer leur réinsertion, même dans le cas de ces narcotrafiquants qui, pour la plupart, d'ailleurs, sortiront de prison un jour ou l'autre, a priori ?
Oui, alors il n'y a pas de sujet. Nous, on est pour la réinsertion, ça fait partie de nos missions, mais pas là, pas sur des détenus qu'on a ciblés, des détenus qui gèrent des réseaux de trafiquants de drogue, qui sont mis dans un quartier spécialisé où on les a coupés du monde, où on a mis des moyens extraordinaires, et ce garçon... D'ailleurs, je vous le dis, moi j'ai demandé à l'administration pénitentiaire au cabinet du ministre que ce détenu sorte du quartier de haute sécurité. Quand il rentre demain, c'est pas la peine de le replacer au quartier de haute sécurité, ça n'a aucun sens.
Emmanuel Baudin, secrétaire général de FO Pénitentiaire, syndicat des surveillants de prison, avec Thomas Séchier dans le 17-20 de France Info. Ce soir, l'essentiel de l'actu à suivre.
Les éditions Radio France présentent
France-Algérie, anatomie d'une déchirure.
Un livre de Thomas Negaroff et Benjamin Stora.
Hérité d'une longue colonisation et d'une guerre d'indépendance sanglante, l'histoire commune de ces deux pays reste à vif. Après la libération de Boualem Sansal, la réconciliation est-elle possible ?
Un ouvrage clair, enrichi de cartes.
France-Algérie, anatomie d'une déchirure.
Un livre France Inter.
France Info. 20h minuit.
23h18, l'info en une minute, c'est avec vous Stéphane Milhomme.
Et Benjamin Netanyahou assure qu'Israël ne permettra pas au Hezbollah de reconstruire son pouvoir. Le Premier ministre israélien appelle toujours le gouvernement libanais à désarmer le mouvement pro-iranien. Une réaction quelques heures après que l'armée israélienne a tué un haut responsable du Hezbollah à Beyrouth. Bilan total, 5 morts et une trentaine de blessés. Le référendum en Slovénie sur le suicide assisté, rejeté. Cette loi votée en juillet dernier par le Parlement Ljubljana est refusée par 53% des électeurs à l'issue de ce référendum. En Europe, la Suisse et l'Autriche autorisent déjà des patients en phase terminale à bénéficier de cette aide médicale pour mettre fin à leur jour. Le sport, le football et Lille remontent à la 4e place après avoir battu ce soir sur son terrain le Paris FC 4-2 pour refermer cette 13e journée de Ligue 1. Le rugby et la 10e journée de Top 14 s'achève avec la victoire du Stade français 51-24. Les Parisiens désormais 3e, talonnés par ces mêmes Toulonnais.
Info.
Bientôt l'heure du départ pour deux des quatre pandas hébergés aux eaux de Beauval dans le Loir-et-Cher. Les visiteurs ont fait aujourd'hui leurs adieux à la femelle Yuan Yuan et au mâle Yuan Zi. Le couple repart pour la Chine après-demain. Retour anticipé car Yuan Yuan souffre d'une insuffisance rénale. 13 ans que ces pandas sont en France. En fait, ils sont loués par la Chine. Il faut payer environ 1 million de dollars pour en héberger un. Ce retour est donc une décision avant tout commerciale d'après le spécialiste de la Chine, Jean-Philippe Béja.
Ce que je pense, c'est que le zoo de Beauval ne veut pas risquer que ce panda meure chez lui parce que les dédommagements, je suppose, seraient encore beaucoup plus importants. Donc c'est une affaire plus commerciale que diplomatique. En l'occurrence, je ne pense pas que ça change grand-chose aux relations franco-chinoises. La diplomatie du panda, c'est quand on offre des pandas à un pays pour lui montrer qu'on a de bonnes relations avec lui et pour améliorer ses relations. Mais quand le panda rentre, maintenant, depuis 1984, en fait, on ne donne plus les pandas, on les loue, on les prête contre une somme d'argent.
Ouais.
Et donc, c'est pas véritablement la même chose.
C'est tout de même un symbole important. Ça reste un signe de confiance quand même entre deux pays, le fait que la Chine prête ou loue, comme vous dites, un panda à un pays.
Pas véritablement. Enfin, je pense que c'est... Oui, bien sûr, on peut dire qu'on ne louerait pas un panda à un pays ennemi, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est le signe d'une très bonne relation étroite. Alors, par contre, effectivement, il y a eu ces tentatives, notamment pendant les années... évidemment, ça a commencé dans les années 50, mais surtout dans les années 80, il y a eu cette diplomatie du panda qui était très active. On a commencé avec Nixon en 1972, on avait donné deux pandas à Nixon et ça a été le signe évidemment du réchauffement des relations sino-américaines qui avaient été très froides. Et puis il y a eu cette tentative avec Taïwan aussi. En 2006, les Chinois ont voulu donner deux pandas à Taïwan. On les appelait d'ailleurs Tuan Tuan et Yuan Yuan, ce qui signifiait unification. Mm. Alors évidemment, à l'époque, c'était le parti indépendantiste qui était au pouvoir et il a refusé. Mais quand le Kuomintang de Ma Ying-jeo est arrivé au pouvoir, a été élu en 2008, il a accepté justement les pandas qui sont d'ailleurs toujours aux eaux de Taïwan. C'est effectivement le symbole, si vous voulez, d'une volonté d'établir de bonnes relations avec un autre pays.
Il y a un intérêt aussi en termes de soft power pour la Chine de prêter ces pandas qui ont été très populaires, par exemple en France, aux eaux de Beauval, ils sont devenus le symbole un peu du zoo. Ils sont comme des ambassadeurs un petit peu de la culture chinoise dans les pays où ils sont prêtés, où ils sont loués.
Bon, il faut quand même bien dire que le panda n'a pas un grand rapport avec la culture. Il se trouve que les pandas vivent en Chine, mais vous avez raison, c'est effectivement un élément du soft power chinois, mais ça dépend essentiellement de la partie qui reçoit. C'est parce que pour le zoo de Beauval a communiqué énormément autour de ces pandas, on dit « Ah, ces pandas, ils sont mignons », etc. Oui. Et donc les gens, effectivement, le considèrent comme un symbole de la Chine. Mais plus ou moins, vous savez, souvent en Chine, quand on parle des pandas, on parle de la police secrète. Alors, c'est bon.
Il y a un intérêt autre pour la Chine de le faire, économique peut-être. Qu'est-ce qu'elle obtient en échange de ces prêts d'animaux ?
Non, là, je crois que vous avez raison. C'est effectivement une manœuvre de soft power et une manœuvre diplomatique. Alors, en plus, il faut bien reconnaître que le fait que le WWF ait adopté le panda comme symbole, c'est quelque chose qui est très, très, très apprécié en Chine et qui sert beaucoup aussi la diplomatie chinoise. Donc oui, effectivement, ces prêts de panda, ça montre, regardez, nous avons de bonnes relations avec tel et tel pays. Mais je crois que du point de vue de l'intérêt aujourd'hui, bon, même s'il faut $1 million pour prêter un panda pour 10 ans, la Chine ne court pas après $1 million aujourd'hui.
Le spécialiste de la Chine, Jean-Philippe Béja, directeur de recherche émérite au CNRS et aux séries de Sciences Po avec Benjamin Recouvreur, tout à l'heure sur France Info. Et un groupe de légendes dans ces chansons qui font l'actu ce soir, Bertrand Dical.
Cette semaine, l'actualité musicale, c'est aussi les Beatles. Non pas un de ces concerts à peine audibles que l'on écoute avec beaucoup de compassion pour quatre musiciens qui eux-mêmes s'entendaient à peine jouer en étant sur scène. Non, l'actualité, c'est le 30e anniversaire d'Anthologie, la première des compilations de trésors inédits des Beatles, des répétitions, des brouillons, des versions alternatives, des chansons qui ont changé le monde. Et pour fêter l'orgie beatlesienne de 1995, voici que sort le double album Anthologie.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real.
I'd like to be underneath the sea, in an octopus's garden.
La prise 26 de l'enregistrement de Strawberry Fields Forever, une répétition d'Octopus's Garden, encore des trésors, oui, mais rien de vraiment inédit, puisque ces versions-là sont déjà parues au cours des dernières années sur des rééditions augmentées des albums historiques des Beatles, y compris une chanson de Paul McCartney dont il n'était resté que quelques secondes sur le pressage original de l'album blanc. C'est un peu triste. Nous sommes 55 ans après la séparation des Beatles et il semble bien qu'il ne reste plus rien de nouveau à écouter. Et nous avons même la nostalgie d'une chanson qui, il y a 30 ans, faisait polémique parce qu'il s'agissait d'un titre posthume, mais maintenant, c'est un classique. D'ailleurs, quand on remonte le temps, on se rend bien compte que parler des Beatles, c'est parler de l'éternité, oui, bien sûr, mais aussi d'une expérience générationnelle. En 1964, quand les Lionceaux adaptent Hard Day's Night en français, ils chantent la Beatlesmania au présent de l'indicatif, avant que 13 ans plus tard, Laurent Voulzy, qui l'a vécu, la chante à l'imparfait.
Et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au cœur.
Ensuite, les Beatles vont devenir une référence pour la génération qui les a découverts après leur séparation. Ils sont un mythe, certes, mais aussi la réalité d'un répertoire d'une influence encore puissante sur les imaginaires de la chanson française. Entre 2003 et 2013, la figure de Ringo Starr chez la Grande Sophie, Liverpool chez les Whippers Circus, le légendaire concert du Shea Stadium chez Vincent Delerme, la malchance de Peter Best chez Benoît Carré.
Ringo Starr.
Jamais allé à Liverpool, mais quelques amis me l'ont chanté.
Alors j'ai hurlé dans le Shea Stadium. Alors j'ai crié I love you, John.
Ils chantent Love Love Me Too. Pourquoi ils m'ont viré?
Et ensuite, pour autant que les paroles des artistes des musiques populaires soient un indice, les Beatles deviennent peu à peu une référence, et seulement une référence. Un nom de star puissante du passé, cité parfois un peu au hasard. Entre 2009 et 2022, un vague souvenir chez Aurel San, HK et les Saltimbanques, Romeo Elvis.
Je suis les Beatles pour les jeunes ados.
On fera jamais les Beatles, on n'aura jamais le pognon.
Café, 7h du mat', douche,
droite, c'est des Beatles.
Ainsi va le temps. Il n'y aura sans doute plus jamais d'inédits des Beatles qui ne sont peut-être plus autant indispensables à la découverte de la pop pour les jeunes artistes d'aujourd'hui. D'ailleurs, ils changent les Beatles. Leur chanson la plus écoutée depuis l'apparition du streaming n'est pas un de leurs numéro 1 de jadis. C'est une chanson de 1969 sur l'album Abbey Road. En voici la prise numéro 9, présente sur Anthology 4, Here Comes the Sun.
Here comes the sun, voilà le soleil, Bertrand Dical, on va voir tout de suite s'il va arriver cette semaine.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission, s'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Et la réponse, c'est avec vous, Patricia Charbonnier.
Le temps sera très instable en début de semaine avec de la pluie et le redoux qui va gagner du terrain demain vers les régions de l'Est. Mais la météo s'annonce très agitée avec de la pluie toute la journée entre les frontières de l'Est, le Massif central et le Sud-Ouest. Ces pluies gagneront le quart sud-est dans l'après-midi. On attend des cumuls assez importants, notamment sur la Corse, sur le Sud-Ouest. De fortes chutes de neige sur les Alpes du Nord avec un risque d'avalanche qui sera très marqué demain. Et sur la moitié nord du pays, le temps restera assez nuageux avec de fréquentes averses, parfois fortes, orageuses, accompagnées de grésils sur les côtes de la Manche et sur la Bretagne, avec des températures en forte hausse demain matin sur le quart nord-est du pays. 3 degrés à Nancy, 4 à Dijon et dans l'après-midi on attend 17 degrés de maximum à Perpignan, 11 à Quimper, 9 à Paris.
Patricia Charbonnier pour ses prévisions météo complètes. Un grand merci à vous d'être avec nous sur France Info à 23h30. L'heure d'un nouveau point sur l'info avec Thomas Benesch.
Les premiers mots à la radio de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, se confie sur son année de détention, sur les rapports franco-algériens et sur son intention de revenir en Algérie dès la semaine prochaine, dit-il à France Inter. France Inter qui va diffuser demain matin en longueur et à partir de 8h20 l'entretien que l'auteur lui a accordé. Un détenu de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais va pouvoir demain quitter sa geôle le temps d'une journée. Il s'est vu accorder une permission de sortie. Il doit l'utiliser pour se rendre chez un possible futur employeur, selon les informations recueillies par France Info. Le prisonnier en question a 52 ans. Il a été condamné en 2012 pour trafic de stupéfiants en bande organisée. Il est libérable en 2029. Ce soir, le garde des Sceaux estime dans ce dossier que le cadre législatif d'application des peines doit être pleinement revu face aux réalités de la grande criminalité organisée et alors que cette permission de sortie suscite l'incompréhension, voire la colère des syndicats pénitentiaires. Il a reconnu être à l'origine des faits en Isère et selon ICI, un homme de 39 ans est mis en examen et placé en détention provisoire. On le soupçonne d'avoir tué sa femme de 27 ans, retrouvée calcinée dans une voiture mercredi à Saint-Marcel-Bel-Accueil. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio exprime ce soir son grand optimisme quant à la possibilité de conclure très vite un accord sur le plan de paix américain sur l'Ukraine. Il le dit alors que des négociations se sont tenues ce dimanche à Genève en Suisse. Elles sont désormais terminées. Nous avons fait d'énormes progrès. Je peux vous dire que les points qui restent en suspens ne sont pas insurmontables. C'est ce que souligne notamment ce soir Marco Rubio, sans en dire plus. En sport et en football, Lille affrontait le Paris FC ce soir et les Lillois l'ont emporté sur le score de 4-2. C'était le match de clôture de la 13e journée de Ligue 1. Et puis en top 14 de rugby, cette fois 10e journée, le Stade français recevait Toulon. Ce soir, les Franciliens l'ont emporté sur le score de 51-24. Marc Potvin.
Thomas Benesch pour l'info. Merci et à tout à l'heure, 23h32, vous écoutez France Info. Merci beaucoup pour votre fidélité. Dans la prochaine demi-heure, le lancement de la campagne de la France Insoumise pour les municipales aujourd'hui. Cette fois-ci, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon n'a pas l'intention de faire de la figuration. On va voir ça dans une dizaine de minutes. Mais d'abord, le sort de l'Ukraine, débattu en Suisse.
France Info, 20h minuit. Marc Potvin.
Depuis plusieurs heures, la représentation américaine à Genève accueille les délégations de l'Ukraine et des États-Unis pour parler sur le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Vous n'en ratez pas une miette, Oksana Melnichuk. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ukrainienne et politologue, réfugiée en France depuis le début de la guerre. Les États-Unis parlent de la rencontre la plus productive depuis le début du processus pour mettre fin au conflit. L'Ukraine confirme, on va y revenir ensemble. Mais d'abord, le récit des dernières heures de négociation avec vous, Jérémy Lanche.
Et c'est par un message en majuscule sur son réseau Truth que Donald Trump s'est invité au pourparlers. Le président américain s'en est vivement pris aux Ukrainiens, coupables selon lui d'ingratitude envers ses efforts pour mettre fin à la guerre. Quelques instants plus tard, l'un des envoyés de Volodymyr Zelensky à Genève, Roustem Oumerov, publie lui aussi un message pour dire que l'Ukraine apprécie les efforts américains et que la version actuelle du plan de paix reflète bien la plupart des priorités de l'Ukraine. Derrière l'échange épistolaire, on sent que Kiev fait tout pour ménager la relation très compliquée avec les États-Unis, avec les Européens en médiateur. À Genève, ils ont proposé une version amendée du plan de paix pour limiter les concessions territoriales que pourrait faire l'Ukraine. Les discussions se poursuivent d'ailleurs ce soir avec les Européens. Marco Rubio a lui prévenu que le dernier mot reviendra de toute façon à Donald Trump et à Volodymyr Zelensky.
Jérémy Lange, vous êtes le correspondant de France Info à Genève, en Suisse. Oksana Melnichuk, on vous retrouve. Ce soir, le chef de la diplomatie des États-Unis, Marco Rubio, se dit optimiste sur la possibilité de conclure un accord très vite. Vous aussi, vous êtes optimiste ?
Oui, je trouve que la guerre elle a pris un nouveau tournant. C'est la dignité et les principes d'honneur et de droit sur lesquels repose la civilisation européenne entrent en confrontation avec la politique cynique des intérêts du capitalisme sauvage incarné par Trump. Je pense que les Européens sortent plutôt avec la dignité. Ces 28 points du plan de la paix ont été perçus par les Ukrainiens comme une piège banal et cyniquement appelé plan de paix. Premièrement, ce qui est appelé le plan de paix de Trump n'est pas un plan, car un plan implique des échanges concrets, une séquence d'actions qui doivent reposer sur leur faisabilité et leur contrôle, n'est-ce pas ? Donc, par conséquent, ce n'est pas un plan d'action, c'est une liste d'approches générales derrière lesquelles les Ukrainiens ont vu les souhaits de la Russie. Oui, ce n'est donc pas le plan de Trump, ce sont les exigences de capitulation, n'est-ce pas ?
Oksana Melnichuk, vous nous parlez d'un nouveau tournant avec ces négociations à Genève. En quoi vous voyez un nouveau tournant ?
Nouveau tournant, c'est les 24 points que les Européens ont interposés aujourd'hui. Et c'est pour ça, Rubio, qui est peut-être une seule tête fraîche, excusez-moi l'expression, aux États-Unis.
Et, qui est le seul, selon vous, qui a la tête sur les épaules ? C'est ça.
Voilà, exactement, parce que vous savez, il est très important quand même pour nous de comprendre le contexte de tous ces événements, de cette agitation de la semaine dernière. La Fédération de Russie ne peut pas prendre Pokrovsk. Il n'obtient pas le succès souhaité sur le front. Pendant ce temps, l'Ukraine tient un front de milliers de kilomètres, frappe les infrastructures de raffinage de pétrole de la Russie, développe ses propres missiles à longue portée et négocie surtout la livraison d'une quantité d'avions qui est capable de changer radicalement les situations sur le front. Que reste-t-il faire à Poutine ? La seule chose qu'il sait faire avec compétence, c'est les opérations spéciale, secrète, dont on voit le scandale de corruption qui éclate simultanément à Kiev.
Oui, qui vise un des proches de Volodymyr Zelensky et qui a entraîné la démission de deux ministres.
Voilà, mais qui vise aussi détruire la verticale du pouvoir en Ukraine pour affecter les résiliences ukrainiennes. Et en même temps, il y a, comme par hasard, le dossier Epstein qui est activé contre Trump. Et aux États-Unis, c'est rendre le Trump malléable par Moscou. Et c'est exactement dans ces moments qu'il y a, comme par hasard, le plan de capitulation de l'Ukraine qui est glissé, vous voyez, enveloppé comme le plan du paix. Donc nous voyons ça comme un plan bien, bien pensé par Kremlin.
Pour ce qui nous concerne, Oksana Melnichuk, et donc ce plan de paix qui est évoqué en ce moment même entre cette délégation ukrainienne et la délégation américaine à Genève, pour les Ukrainiens, la version actuelle du plan de paix reflète bien la plupart des priorités de l'Ukraine. Qu'est-ce qui est acceptable dans tout ça ?
Mais ce qui a été appris aujourd'hui est déjà proposé par les Européens, parce que je signale qu'à Genève, il n'y a pas que des Américains et les Ukrainiens. Il y a 5 pays qui participent. Il y a la délégation de France, de Grande-Bretagne et de l'Allemagne aussi. Donc, les Européens, avec l'Ukraine, on a proposé notre proposition qui était acceptée par la délégation américaine. Donc, la première chose, c'est la création de mécanismes. Après le cessez-le-feu, on propose d'établir des mécanismes qui garantissent le paix en sécurité en long terme, qu'on va discuter toutes les questions de territoire seulement après le cessez-le-feu, c'était le deuxième point. Mmh. Donc, il y a nouveau 24 points. Et c'est pour ça que je suis optimiste. Il n'y a pas du tout de Crimée, de Donbass en question. D'abord le cessez-le-feu et après, on va parler des territoires.
Donc autant dire que jamais la Russie ne pourra accepter une chose pareille.
Mais vous savez, il faut que l'Europe, qui est quand même dans la position de force vis-à-vis de la Russie, accepte l'idée que c'est nous qui vont dicter les conditions aux Russes. Et c'est pas à la Russie de nous dicter quelque chose. La Russie, il a l'intérêt d'accepter ça pour qu'on puisse envisager après que la Russie va rétablir la vie normale. Parce qu'une seule sorte de la Russie qu'elle attend aujourd'hui, avec tout ce qu'il nous impose à tout le monde entier, c'est le tribunal international. Et le jugement quand même de toute cette criminelle de guerre. Parce que, comme par hasard, avec cette Witkoff, qui est quand même loin de géopolitique...
Steve Witkoff, c'est l'envoyé spécial de Donald Trump.
Qui a quand même rédigé ce fameux plan de paix de Trump de 28 points. Il a rédigé avec le conseiller de Poutine.
Oui.
Vous savez, c'est pas... Les deux personnes qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas des postes officiels même dans la verticale des gouvernements, ni aux États-Unis, ni en Russie. Donc, Witkoff, il apporte un plan qui n'est que la capitulation. On a déjà vu ce plan. Il est déjà présenté en 2022. Donc, c'est pas la peine de répéter. Mais quand même, on a déjà vu la fixation des souhaits de la Russie. L'Europe aujourd'hui, il a dit non, c'est impossible, c'est inacceptable. Rubio,
justement,
il a dit d'accord.
Justement,
voilà.
Oksana Melnichuk, oui. Vous nous rappeliez tout à l'heure qu'il n'y a pas que les délégations américaines et ukrainiennes à Genève, il y a aussi des Européens. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, suit tout ça à distance. Et tout à l'heure, elle a donc dressé les lignes rouges de l'Europe. On l'écoute et vous réagissez juste après.
L'Ukraine a été au cœur de nombreuses discussions ces derniers jours. Un plan de paix crédible et soutenable doit premièrement et avant tout arrêter les meurtres et la guerre pour ne pas risquer de semer les graines d'un conflit futur. Nous sommes tombés d'accord sur les principaux éléments nécessaires pour une paix durable et juste et la souveraineté de l'Ukraine. Laissez-moi vous éclairer sur trois d'entre eux. Premièrement, les frontières ne peuvent pas être modifiées par la force. Deuxièmement, l'Ukraine, en tant que nation souveraine, ne peut voir ses forces armées limitées, ce qui rendrait le pays vulnérable à une future attaque et ainsi saper la sécurité européenne. Troisièmement, la priorité des nations européennes est de sécuriser la paix pour l'Ukraine. Elle doit être totalement respectée. L'Ukraine doit avoir la liberté et le droit souverain de choisir sa propre destinée.
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Oksana Melnichuk, l'Union européenne associée au Royaume-Uni, c'est vraiment votre planche de salut dans ces heures et ces jours de négociations autour d'un plan pour mettre fin à la guerre.
Oui, parce que vous voyez, l'Europe, elle quand même montre sa force. Rappelons que l'Ukraine, elle a déjà manifesté par plusieurs Maïdans, et celle de 2005 et celle de 2014, et par cette résistance incroyable pendant cette agression de la Russie, l'Ukraine a manifesté son désir d'entrer à l'Union européenne. Donc, oui. C'est seulement l'Union européenne qui peut dicter les conditions à l'Ukraine, par exemple.
Merci à vous, Oksana Melnichuk, ukrainienne et politologue. Vous êtes réfugiée en France depuis le début de la guerre. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre ce soir dans le 20h Minute France Info. Et j'ajoute que les pourparlers à Genève entre Américains, Ukrainiens et Européens sont maintenant terminés. 23h42. La France insoumise met le cap sur les municipales de l'an prochain. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a lancé aujourd'hui sa campagne en vue de ses élections à Aubervilliers, près de Paris. LFI ne dirige qu'une dizaine de mairies, surtout des petites villes ou des villes moyennes. Sonia Gobry, vous étiez sur place devant leurs adhérents. Les insoumis ont sorti le grand jeu.
Oui, son, lumière, mise en scène des intervenants, mini-clip de campagne, tout est calibré au millimètre. Les insoumis mettent le paquet pour ces municipales. Paul Vanier, en charge des élections pour le mouvement, déroule la feuille de route.
La France insoumise sera présente dans plus de 500 communes à travers le pays, présente dans la totalité des villes de plus de 100 000 habitants, présente dans plus de 80% des communes de plus de 30 000 habitants du pays.
Signal envoyé au reste de la gauche, socialiste en tête.
À tous ceux qui pensent pouvoir nous évincer de leur combinaison d'appareils, les insoumis vont entrer massivement dans les conseils municipaux de France.
Avec en ligne de mire les sénatoriales, leur nombre d'élus locaux sera crucial pour espérer enfin faire leur entrée au Sénat, où les Insoumis ne comptent aucun représentant, un vrai handicap dans la bataille parlementaire. Alors entouré de dizaines de candidats aux municipales, Jean-Luc Mélenchon fait son entrée sur scène.
Les élections municipales vont appeler aux urnes, et parce que nous serons à un an de l'élection présidentielle, dont ceci pourrait bien être un galop d'essai.
Jean-Luc Mélenchon promet de préparer la 6e République à l'échelle locale avec une proposition, instaurer un référendum communal d'initiative citoyenne directement inspiré des revendications des Gilets jaunes.
Reportage de Sonia Gobry pour France Info.
France Info, 20h minuit.
23h43, l'info en une minute avec vous Thomas Benesch et les discussions sont closes à Genève en Suisse.
Ces discussions portaient sur le plan de paix américain sur l'Ukraine, que va-t-il advenir maintenant? Eh bien selon le secrétaire d'État américain, d'énormes progrès ont été faits. Je peux vous dire que les points qui restent en suspens ne sont pas insurmontables, souligne notamment ce soir Marco Rubio. Sans en dire plus à ce sujet, Boualem Sansal va revenir en Algérie dès la semaine prochaine. L'auteur le dit à l'occasion d'un entretien accordé à France Inter et qui sera diffusé en longueur demain matin à partir de 8h20. Je pense que c'est là qu'on va vérifier la réalité et la justesse des choses, analyse l'écrivain franco-algérien gracié par l'Algérie après un an passé en détention. Lille affrontait le Paris FC en clôture de la 13e journée de Ligue 1 de football. Les Lillois l'ont emporté sur le score de 4-2. Et puis en top 14 de rugby, 10e journée, le Stade français affrontait ce soir Toulon. Les Franciliens l'ont emporté sur le score de 51-24.
C'était la nuit dernière sur le circuit de Las Vegas. Dorian Pain a remporté l'édition 2025 de la F1 Academy, un championnat de monoplace réservé aux femmes. La Française a 21 ans et pour elle, Noureddine Zidane, la deuxième tentative aura été la bonne.
Dorian Pain has won the championship.
Le point et l'index levé, Dorian Pain laisse exploser sa joie à bord de sa monoplace argentée. Yeah, vice-championne du monde la saison passée. Elle est sacrée cette année grâce à sa régularité. 4 victoires en 14 courses sans jamais terminer au-delà de la 6e place.
Merci beaucoup pour avoir contribué à ce succès. Vous m'avez beaucoup aidé depuis le début de ma carrière. Je vous aime les gars. Merci à chacun d'entre vous. Quel boulot vous avez fait.
Familière des pistes automobiles depuis l'âge de 9 ans, elle est repérée début 2024 par Mercedes, qui l'intègre à sa filière jeune pilote, dont est issu George Russell, le pilote F1 de l'écurie allemande, au micro de Canal+.
Oui, je suis très heureux pour Dorian qu'elle ait gagné la F1 Academy. Elle travaille si dur cette année. Elle nous demande souvent des conseils. Elle n'est pas timide, elle n'a pas peur de poser des questions.
La F1, c'est le rêve de celle que l'on surnomme la fusée de poche en raison de sa petite taille, 1m59. Seules 5 femmes y sont parvenues dans l'histoire de la discipline. La dernière, c'était l'italienne Giovanna Amati, il y a 33 ans, mais elle n'avait pas réussi à franchir le cap des qualifications et à disputer un grand prix.
Noureddine Zidane, de la direction des sports de Radio France. On l'a dit, Dorian Pain n'a que 21 ans. Et pour Agnès Lasbarère, journaliste à l'hebdomadaire Autoplus, elle a réalisé une très grande performance vu son âge.
Dorian, c'est quand même un personnage assez extraordinaire. C'est une pilote extraordinaire qui a énormément de ténacité, énormément de talent. Comme on l'a dit, on l'a entendu dans le sujet, elle a commencé très tôt par le karting, comme tous les autres pilotes. Il faut rappeler que quand même le sport automobile est un sport mixte. La Formule 1 Academy est une discipline où il n'y a que des femmes qui courent entre elles. Mais elle, son objectif, bien sûr, c'est d'arriver aux échelons supérieurs, bien sûr. Mais avant ça, il y a d'autres étapes. Pour schématiser, au-dessus, l'idéal serait qu'elle puisse accéder à la Formule 3 et ensuite à la Formule 2 et ensuite à la Formule 1. Et là, évidemment, en Formule 1, il n'y a que 20 places disponibles.
Mais c'est quand même un très bon signe pour la suite. Son parcours est très prometteur à Dorian Pain.
Oui, vraiment, parce qu'elle se démarque, je vous dis, par sa ténacité. C'est une énorme bosseuse. Elle ne lâche rien, jamais. Elle l'a prouvé encore à Las Vegas là, pour ses 2 dernières courses de la saison. Son objectif, bien sûr, était d'obtenir le titre. Elle est arrivée à Las Vegas avec 9 points d'avance sur sa rivale directe qui était Maya Wug. Et vraiment, la première course, ça a été une course incroyable parce qu'il y a eu des accidents, des safety cars, il a plu, il fallait vraiment énormément. Elle a un mental de dingue, c'est ça qui marque aussi chez Dorian. Il fallait vraiment garder la tête sur les épaules et elle a gagné cette course. Et lors de la deuxième course, et après la victoire à cette première course, il fallait encore qu'elle se batte pour obtenir le titre. Rien n'était encore joué. Et à la deuxième course, elle a encore été hyper tenace, hyper agressive, mais très raisonnée. Et elle a su jouer comme il fallait pour obtenir le titre. Et franchement, on ne peut que se réjouir d'avoir une pilote française de ce talent-là. En fait.
Soutenue, cette pilote française par Mercedes, pas n'importe quelle écurie. Rappelons-le, celle de George Russell qu'on entendait en F1. Ça compte aussi d'être portée par une telle équipe.
Oui, c'est très important parce que le sport automobile, c'est très compliqué puisque ce sont des budgets énormes. Il faut avoir énormément de soutien, il faut trouver des sponsors, il faut gagner des courses, il faut gagner des titres. Donc, il y a énormément de choses qui entrent en compte pour pouvoir gravir les échelons. Pour Dorian, c'est très important d'être soutenue par le junior team Mercedes, par l'écurie de Formule 1 Mercedes. Elle est aussi soutenue par les Ayrandem, qui est une équipe de typiquement féminine, hein, qui est dirigée par Deborah Meyer, qui a créé ce team pour promouvoir les femmes dans le sport automobile. Et ce qu'on peut espérer, il faut croiser les doigts, c'est que grâce justement à ces filières-là, et notamment la filière Mercedes, eh ben, ça l'aidera à gravir l'échelon supérieur, parce que ce sont des budgets tellement énormes qu'on ne peut pas le faire tout seul.
Agnès Lasbarère, journaliste à l'hebdomadaire Auto Plus, au micro de Benjamin Recouvreur, tout à l'heure sur France Info. Voici France Info Monde. Catherine Potier, vous êtes en compagnie de Dominique André.
France Info Monde est en Chine ce soir, pays que vous connaissez bien. Dominique André, bonsoir.
Bonsoir Catherine.
La Chine qui continue de frapper fort contre la nouvelle première ministre japonaise après ses déclarations en faveur de Taïwan. Le gouvernement chinois vise maintenant le cinéma de l'archipel nippon et pas n'importe lequel, Dominique.
Papa,
hey, hey.
Alors, il s'agit de deux films d'animation japonais. Alors, l'extrait qu'on entend, c'est celui des Brigades immunitaires. C'est un manga qui a été adapté au cinéma et qui raconte l'histoire d'un père qui élève seul sa fille depuis la mort de sa femme. Le film a fait un carton au Japon. La sortie dans les cinémas en Chine était prévue début décembre, mais elle est reportée sans que les autorités chinoises donnent de nouvelles dates. Il y a aussi un deuxième film pour la jeunesse. C'est la nouvelle aventure cinématographique de Chin-chan, un petit personnage très espiègle d'une célèbre série animée japonaise, Crayon Chin-chan, dont raffolent les enfants japonais depuis des dizaines d'années et qui devait sortir aussi en Chine dans les prochains jours. Mais l'administration du cinéma en Chine, organisme officiel, a considéré qu'il s'agissait d'une décision prudente compte tenu de l'état d'esprit actuel des spectateurs chinois. Alors je me demande bien quand même quel est l'état d'esprit des enfants chinois, ce qu'ils pensent des tensions diplomatiques entre leur pays et le Japon. En attendant donc, ils n'iront pas au cinéma pour voir ces deux nouveaux films. La censure touche toutes les générations en Chine. Bon, mais c'est pas la première fois, Dominique, que le régime de Pékin s'en prend à la culture.
Mais surtout Xi Jinping, le chef d'État et secrétaire général du Parti communiste chinois au pouvoir depuis 13 ans maintenant. On sait que Xi Jinping a relancé la doctrine marxiste, qu'il a fait inscrire sa pensée dans la constitution chinoise, et sa pensée, c'est la ligne directrice que la Chine doit suivre, notamment sur le plan culturel. Xi Jinping veut limiter l'influence culturelle que peuvent avoir en Chine les pays occidentaux, le Japon, comme on le voit en ce moment avec ses films, et puis un autre voisin, Catherine.
Ah bah mais ça c'est de la K-pop, la musique pop sud-coréenne. Ça veut dire que les autorités chinoises s'en méfient aussi ?
Mais oui, tout à fait. Ça fait presque 10 ans que ça dure, que la K-pop est dans le collimateur du régime de Pékin. En fait, en 2016, Xi Jinping avait riposté au déploiement du système de défense antimissile THAAD sur une base américaine en Corée du Sud. Il avait imposé un embargo officieux sur les produits culturels sud-coréens, dont la musique pop, la K-pop. En septembre dernier, ce devait être le grand retour de la scène K-pop sud-coréenne en Chine continentale. Et là encore, le concert a été reporté au grand désespoir des nombreux fans chinois. C'est donc sans fin. La censure reste une mesure de rétorsion contre les pays qui osent défier le régime de Xi Jinping.
Quand l'escalade verbale autour de Taïwan affecte la culture japonaise, la Chine suspend la sortie de deux films d'animation japonais. France Info Monde, Dominique André, à retrouver en podcast sur franceinfo.fr.
Catherine Potier, vous ne bougez pas, c'est ma santé conseil, tout de suite.
Comment
lutter contre l'obésité. De nouveaux médicaments sont arrivés sur le marché, des médicaments dits GLP-1. Alors, est-ce qu'ils sont beaucoup plus efficaces que les autres? À qui s'adressent-ils? Quels sont les risques s'ils ne sont pas bien utilisés? C'est Ma Santé Conseil maintenant avec Sébastien Tchernikov. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de nutrition à l'Université Paris Cité, chef du service nutrition de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Quand on parle de ces nouveaux médicaments, quelle est leur action sur le corps et sur le cerveau?
Ces nouvelles molécules, elles cherchent à finalement mimer l'effet des hormones naturelles qui contrôlent l'appétit. Et donc ces nouveaux médicaments vont envoyer un signal au cerveau qui va être un rassasiement plus fort, plus durable, plus rapide et qui va réduire finalement la sensation de faim, qui va donner envie de manger moins, mais qui va aussi ralentir la digestion, ce qui va avoir un effet de rassasiement sur le long cours.
Et à qui s'adressent ces médicaments? Alors, à partir de quel moment on peut dire cette personne est dans un état d'obésité?
L'obésité, elle est définie partout dans le monde par un indicateur qui s'appelle l'indice de masse corporelle, qui est un rapport du poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Alors aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a permis de donner une nouvelle façon, une nouvelle définition de la gradation de l'obésité et de ses complications, qui ne va pas uniquement se baser sur l'indice de masse corporelle, mais qui va par exemple utiliser des notions de retentissement sur la qualité de vie. On comprend bien qu'au-delà du poids, si on n'est pas capable de marcher 50 mètres ou 100 mètres parce qu'on a une arthrose évoluée des genoux, par exemple parce qu'on a eu un événement cardiovasculaire par le passé, eh bien entendu, le niveau de complexité de l'obésité n'est pas le même. Et de la même façon, il existe en France une organisation des soins pour permettre aux patients, en fonction justement de son niveau d'IMC et de son niveau de complications associées à l'obésité, d'être orienté soit vers le médecin généraliste en première intention, soit vers des médecins spécialistes de ville, soit vers ce qu'on appelle des centres spécialisés obésité, qui vont prendre en charge, en prendre en soin les patients qui ont une obésité les plus sévères et les plus compliquées. Mais le mot-clé, ça va être le long cours pour cette maladie qu'on appelle maladie chronique.
En clair, ce ne sont pas des médicaments que l'on prend parce qu'on veut perdre 2 ou 3 kilos avant d'aller sur la plage l'été.
Absolument, vous avez complètement raison. Ces médicaments ne doivent pas être prescrits en première intention par les médecins. Ils sont prescrits lorsque il y a une prise en charge nutritionnelle, diététique, activité physique, éventuellement psychologique, pendant au moins 6 mois. Et en cas d'échec de cette prise en charge, en l'absence de perte de poids suffisante, eh bien, ces médicaments peuvent être prescrits.
Bon, mais comme tout médicament, il peut y avoir des effets secondaires, j'imagine, des risques.
Bien entendu, c'est la raison pour laquelle ces médicaments ne sont pas faits pour de l'esthétique. Ces médicaments, ils sont faits pour des personnes avec une maladie chronique. Il y a des effets indésirables, principalement des effets indésirables digestifs, nausées, diarrhées, constipation. Il y a un risque de calcul dans la vésicule. Et puis, il y a un risque au long cours éventuel de carences nutritionnelles, des carences en vitamines, par exemple. Et c'est pour cette raison qu'il faut absolument prendre ces médicaments de façon encadrée et avec un suivi médical.
Il y a donc une prescription médicale, et j'insiste là-dessus, ça veut dire attention aux ventes illégales sur Internet. Il y a de faux médicaments.
Oui, les médicaments doivent être achetés en pharmacie avec une prescription médicale et encadrée.
Question importante, est-ce que ces médicaments, ces nouvelles molécules, sont remboursées par la Sécurité sociale? Parce que c'est important pour ceux qui auraient besoin de ce type de médicaments.
C'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, ces différents traitements médicamenteux de l'obésité, les TMO, comme on aime les appeler dorénavant, ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Il y a des discussions en cours. Mais c'est un enjeu majeur, puisque aujourd'hui, l'obésité représente 18% de la population en France. Si on se focalise sur l'indice de masse corporelle au-delà de 35, au-delà de 40, c'est 6% de la population, donc c'est un sous-groupe de ces 18%. Et si on prend en compte le surpoids plus l'obésité, c'est-à-dire un indice de masse corporelle au-delà de 25 et bien plus, eh bien c'est la moitié de la population française qui est concernée par cet excès de poids, surpoids ou obésité.
Merci beaucoup Sébastien Tchernikov, chef du service nutrition à l'hôpital européen Georges Pompidou. La lutte contre l'obésité, l'efficacité des nouveaux médicaments, c'est Ma Santé Conseil tous les dimanches avec la PHP Hôpitaux de Paris sur France Info. Et j'en profite pour citer votre ouvrage, Arthrose, arthrite, je me soigne. gagne en mangeant, coécrit avec le professeur Selam. Merci à vous.
Catherine Potier, merci.
Écouter la radio en DAB+, c'est avoir plus de stations avec une qualité optimale. Pour en profiter à la maison, il vous faut une radio compatible DAB+. Et c'est tout. Plus d'infos sur ensemble-pour-le-dab+.fr.
DAB+.
Trois lettres pour une révolution de la radio. Et pour les fêtes, si vous cherchez une bonne idée cadeau, offrez une radio DAB+.
France Info sur les réseaux sociaux.
Une actu qui s'écoute, se regarde et se partage.
Suivez-nous sur WhatsApp,
TikTok,
Instagram,
X,
Facebook,
Snapchat,
LinkedIn,
YouTube
ou Twitch.
Tous les temps forts de l'info, des éclairages, de l'insolite, du terrain, de l'histoire.
Abonnez-vous à nos comptes.
France Info, pas juste l'info, l'info juste.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Les prévisions météo, c'est avec vous, Patricia Charbonnier.
Le temps sera très agité en début de semaine, avec de la pluie et même des pluies localement soutenues sur la moitié sud du pays, au passage d'une perturbation très active qui s'accompagne d'un très net redoux. Les pluies s'étendront demain tout au long de la journée entre les frontières de l'Est, le Massif central et le Sud-Ouest. Elles gagneront le quart sud-est dans l'après-midi et on attend des cumuls assez importants sur le Sud-Ouest, sur la Corse, de fortes chutes de neige sur les Alpes du Nord avec un risque d'avalanche qui sera très marqué. Sur la moitié nord, le temps restera assez nuageux demain encore avec de fortes averses à caractère orageux, parfois même accompagnées de grésils et de fortes rafales de vent près des côtes de la Manche et sur la Bretagne. Ce sera plus ensoleillé dans l'après-midi entre l'Île-de-France, le centre-Val de Loire et le Poitou-Charentes avec une forte hausse des températures pour demain matin sur les régions de l'Est. 3 degrés, ce sera le minimum pour Nancy, 7 à Lyon et dans l'après-midi, on attend jusqu'à 17 degrés à Perpignan, 16 à Marseille, 13 à